Vous êtes sur RTL.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Gilles Legendre.
Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci beaucoup d'être ce matin sur RTL. D'abord, vous confirmez que ce qu'a proposé hier Jacqueline Gourault dans JDD, c'est-à-dire faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français, y compris les plus modestes, ne serait-ce qu'un euro, il n'en est pas question?
Il n'en est pas question en termes de décision. Après, est-ce que les ministres ou les élus ont le droit de mettre et de verser au débat national des idées nouvelles? Évidemment, elles n'ont pas le même poids quand elles s'adressent à un journal que quand elles sortent lors d'une réunion publique. J'y participe à un certain nombre d'entre elles et cette idée-là circule aussi. La ministre a le droit aussi d'avoir des opinions.
Chaque ministre peut mettre comme ça sa conviction. Écoutez, sur la table. On a eu Gérald Darmanin avec la suppression des niches fiscales, Poisson et Rugy du même ministère de l'Environnement, la taxe carbone. On peut comme ça...
Nous sommes rentrés dans ce débat en disant qu'il n'y avait pas de tabou. Il n'y en a pas pour nos concitoyens, il n'y en a pas forcément pour les ministres. Attendez. À une condition, et j'ajoute ça, qu'il soit très clair... qu'on fasse la distinction entre ce qui relève d'une proposition et ce qui relèverait d'une décision. C'est une idée qui est versée au débat. C'est en aucun cas une décision. Nous ne sommes pas dans la phase de décision.
Enfin, le désordre peut être fécond, je vous entends, Gilles Legendre, mais vous pourriez quand même vous mettre d'accord, la majorité, le gouvernement, pour ne pas réintroduire chaque semaine l'idée que vous allez augmenter les impôts.
C'est l'idée que vous faites, c'est l'idée que vous vous faites du débat. Le débat national dure 2 mois. Pendant ces 2 mois, toutes les idées peuvent être émises. Je le répète, à condition, et c'est peut-être ça qui fait problème dans la déclaration de Jacqueline Gourault, qu'il soit bien clair que c'est une idée, une piste, une discussion... et en aucun cas une décision.
Vous nous convaincrez difficilement du fait qu'une idée qui est immédiatement renvoyée dans ses foyers par Matignon est une idée qui sert au débat.
Ça fait partie du débat.
Ça fait partie du débat.
Elisabeth Martichoux.
Ça, c'est monsieur, je positive, hein, absolument.
Mais écoutez, si c'est comme ça que vous le voyez, ça vous regarde.
Plus sérieusement, la piste d'un impôt sur le revenu universel n'est pas à l'étude, donc. Fait savoir Matignon pratiquement dans la seconde où l'idée, comme vous dites, a été émise. Alors, qu'est-ce qui est à l'étude, Gilles Legendre?
Alors, pour l'instant, rien n'est à l'étude. Et tout ce que vous signalez, les niches, le retour de la taxe carbone, la restauration de l'ISF, l'impôt universel, démontre une chose. Si nous rentrons dans le débat fiscal par une seule mesure, nous n'arriverons à rien. Ce que les Français attendent, et que j'entends à longueur de réunion dans le cadre du grand débat, en matière fiscale, ils veulent que nous payions moins d'impôts et de charges, que le système soit moins complexe, les Français n'y comprennent plus rien, et enfin qu'il soit plus juste. Ces 3 objectifs, nous ne les atteindrons que par une panoplie de mesures, une remise à plat en profondeur de notre fiscalité.
Avant le Big Bang fiscal.
Non, c'est pas Big Bang, c'est une remise à plat, et cette remise à plat permettra d'aborder plusieurs sujets, les impôts des ménages, les impôts directs, les impôts indirects, la fiscalité locale, et cette remise à plat prendra du temps. Il faudra plusieurs années pour la mener à bien.
Dites-moi, à la sortie du grand débat, il ne faut donc rien trancher, il ne faut prendre aucune décision?
Mais bien sûr que si.
Par exemple, alors, donnez-moi au moins une
d'abord,
idée d'une sur, décision alors, qui pourrait être prise par le président.
D'abord, pour la sortie du grand débat, il va falloir distinguer avec une énorme précision ce qui relève de la restitution du million de propositions qui sont sur la table, qui doivent être restituées de façon exhaustive, sincère, honnête et ordonnée.
Il y a un doute ?
Non, il n'y a pas de doute puisque nous avons fait cette promesse et que cette promesse est garantie par 5 grands garants. Et dans un second temps séparé, nous prendrons nos responsabilités de gouvernants légitimement élus et nous prendrons des décisions.
Séparé, c'est-à-dire il faut vraiment à un moment de la restitution, début avril, disons, après la clôture du grand débat, et puis prendre un temps, 15 jours après, dissocier
15
dans
jours,
le temps les
3
décisions.
Semaines, et peut-être pas sur les mêmes sujets tout en même temps, montrer ce qui relève de nos choix de gouvernants.
D'accord.
Et ces deux phases absolument différentes.
Vous soulignez l'enjeu de la neutralité et de l'exhaustivité.
Fondamentalement. fondamental. Sinon, ça détruit tout ce que nous avons fait depuis maintenant 6 semaines et qui aura duré près de 2 mois.
Je reviens une question sur la fiscalité, parce que vous ne m'avez pas répondu. Au moment où les décisions seront annoncées sur la fiscalité, Emmanuel Macron ne doit rien trancher ? Il y a par exemple,
mais si nous engage...
la taxe d'habitation.
Alors, sur la taxe d'habitation, c'est un coup parti. Donc, il va falloir que nous prenions une décision de savoir si les 20% de Français qui aujourd'hui continuent de payer la taxe d'habitation alors que la baisse a commencé pour les 80 autres pourcents, si ces 20% continueront ou non de la payer. C'est une décision que nous prendrons à ce moment-là.
Et pour vous, qu'est-ce que vous préconisez?
Écoutez, nous avons pointé cet impôt comme concentrant tous les défauts de la fiscalité. Une grande injustice, vous payez 400 euros de taxe d'habitation à Paris, 1700 euros à Montpellier. Est-ce que c'est acceptable? Personne ne comprend rien au mode de calcul. Donc, la logique serait d'aller jusqu'au bout. Mais attendez...
Donc 100%.
Non, Elisabeth Martichoux, je m'applique aussi à moi-même la règle, le moment de la décision sur ce sujet-là, comme sur les autres, viendra.
Mais ça peut être tranché à la fin du grand débat.
Ça peut être tranché parce que le coup est parti. Le coup est parti.
Ouais, le coup est parti.
Mais vous savez, Elisabeth...
Non, ma question, parce que vous l'avez dit, c'est très important. Il y a une demande de justice fiscale. Est-ce qu'il faut que Emmanuel Macron prenne à ce titre-là, ce chapitre-là, une décision immédiate, genre création d'une nouvelle tranche pour les revenus supérieurs, ou plus de progressivité pour, par exemple, la classe moyenne, ou vous dites non.
Si nous engageons une réforme fiscale de grande ampleur, nous pourrons parfaitement annoncer les mesures qui viendront dans l'immédiat, mais à condition que ce soit présenté dans une perspective longue. Une seule mesure n'y réussira pas. Elisabeth Martichoux, c'est ça dont il faut se convaincre. Et par ailleurs, je tenais à vous dire une chose, c'est que les impôts, ils ont commencé à baisser depuis 18 mois. Et c'était la première fois. Et c'est ce qui explique que le pouvoir d'achat va augmenter en 2019 comme il n'a jamais augmenté depuis 20 ans.
Il y a une distinction entre les impôts et les prélèvements.
Et autre chose sur lequel je veux insister, ce n'est pas uniquement la fiscalité qui va permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. C'est la relance de l'économie, c'est la relance de l'emploi, et c'est de faire en sorte que les aides sociales, qui aujourd'hui ne sont pas attribuées à 30% des Français qui y auraient droit, qu'elles soient effectivement en place. C'est ce que nous allons travailler avec mon groupe parlementaire dans les semaines qui viennent, avec la fameuse disposition sur le non-recours aux aides. Faire en sorte que ce non-recours tombe à zéro. Ce que nous avons commencé à faire...
Non-recours avec... aux aides, expliquez-moi.
Il y a aujourd'hui, sur certaines aides, notamment la prime d'activité, le RSA...
Voilà.
Bon, et ben voilà.
Il y a plein de gens qui sont bénéficiaires et qui n'y touchent pas.
Il faut corriger ça.
Mais ça veut dire quoi ?
Et ben ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les Français soient au courant des aides auxquelles ils ont droit, et de faire en sorte que les organismes qui sont chargés de les distribuer soient capables d'aller au bout de leur mission.
Vous voulez instaurer un droit au recours
Mais le droit, il est de plein droit. C'est de la technique.
C'est de la technique. Donc vous allez, on va dire, secouer les institutions concernées.
Mais nous avons commencé à le faire, par exemple, avec les caisses d'allocation familiale pour la prime d'activité. Il y a déjà 700 000 personnes de plus par rapport à décembre qui touchent la prime d'activité alors qu'ils y avaient droit auparavant.
Autre question, Gilles Legendre, qui est posée ce matin à la une des Échos. Est-ce qu'il serait juste de moins indemniser les cadres au chômage? Les Échos écrivent que le gouvernement, ayant repris la main sur la négociation de l'assurance chômage, il y pense très fort pour faire des économies.
Alors, il est évident qu'aujourd'hui, les cadres supérieurs, les cadres dirigeants, connaissent un taux de chômage extrêmement modeste et que quand ils reconnaissent une période de chômage, elle est très brève et qu'aujourd'hui, ils sont indemnisés dans des proportions et à des niveaux qui sont supérieurs à tout ce qui est constaté dans tous les autres pays. Donc, cela fait partie d'un certain nombre de dysfonctionnements de l'assurance chômage. Il y en a d'autres auxquels nous avons envie et la nécessité de nous attaquer. Cela fait partie des pistes. Nous verrons où aboutira exactement cette proposition.
Parce que les cadres sont réemployables, entre guillemets, ils trouvent plus vite du boulot que, évidemment, des salariés qui
moins
sont,
formés,
par exemple,
ou
pas
moins
qualifiés, etc. Donc, et ce serait payant politiquement de s'attaquer aux cadres dans
le contexte
des
Gilets jaunes ? L'objectif, c'est de faire en sorte que l'assurance chômage soit réformée de telle manière qu'elle facilite le retour à l'emploi de tous ceux qui, aujourd'hui, en sont éloignés.
Il n'y a pas d'arrière-pensée politique ?
Non.
Dans cette mesure.
Non. Il n'y a pas d'arrière-pensée politique.
Est-ce que, Gilles Legendre, est-ce que vous manquez d'autorité ?
Pas du tout.
Alors, certains députés de votre majorité, de votre groupe, estiment que vous manquez un peu de poigne. C'est pour ça que c'est comme ça que 50 députés de la majorité n'ont pas voté la loi anticasseurs. C'est comme ça qu'Agnès Thil, qui a eu des propos contestables sur la PMA, n'a pas été exclue du groupe. Vous ne savez pas trancher.
Non, alors je sais parfaitement trancher. Quand il a fallu exclure l'un de nos collègues qui n'avait pas voté le budget, la décision a été prise en 2 heures. Mais on ne dirige pas un groupe politique de cette diversité, diversité d'expérience, diversité sociologique, diversité de sensibilité politique, à coups de menton et à coups de fouet. Un groupe politique, ça n'est pas une armée. Ça se dirige avec de la compréhension, avec de la persuasion, avec de la conviction. J'ai des trois et je vous assure qu'ils fonctionnent. Prenez l'exemple de la loi anticasseurs. J'ai fait en sorte que, alors qu'au début, elle aurait probablement recueilli une bonne trentaine ou une bonne quarantaine de votes contre, il n'y ait que 50 abstentions. 50 C'était abstentions. Une victoire.
Mmh. Ah oui, ça aurait pu être pire. Vous êtes d'accord.
Mais
vous
c'est avez pas pire, les dégâts. C'est la diversité. Vous voulez quoi, Elisabeth Martichoux? Vous voulez des groupes qui marchent? Mais les députés me savent gré qu'il y ait eu la possibilité de s'abstenir sans que ça provoque de drame.
Donc vous êtes très content de la façon dont vous...
Je suis très fier de ce groupe. Je suis très fier de ce groupe. Il n'a jamais manqué un vote à cette majorité depuis 20 mois, Elisabeth Martichoux. C'est le seul contrat qui me lie à l'exécutif.
Ce sera quoi la règle pendant les débats sur la bioéthique? Si vous avez un député qui, contre la PMA étendue à toutes les femmes, il pourra le dire, il pourra expliquer pourquoi, dans tous les
termes. Non seulement il le pourra, mais il le devra. Nous avons dit d'emblée...
On peut travailler ensemble à l'élaboration d'une politique pour la France et avoir des valeurs très différentes.
Évidemment, évidemment, Elisabeth Martichoux, il en est d'un groupe politique comme de tous les Français. Sur ce sujet, ils ont des convictions, ils doivent les exprimer dans le respect de celles des autres. C'est ça à quoi je dois veiller.
À propos de respect, Gilles Legendre, les ministres doivent-ils prévenir les maires des villes quand ils y vont en visite?
Ils le font dans la quasi-totalité des cas. Je vois très bien à quel incident vous faites allusion. C'est une remarque acerbe de Martine Aubry.
La colère de Martine Aubry, voilà. Voyant Nicole Belloubet et Agnès Buzyn arriver pour visiter le CHU de Lille sans l'avoir prévenu.
Je conseillerais à Martine Aubry d'investir sa colère dans des causes plus intéressantes que celle-là, franchement.
Elle n'avait pas un petit peu raison quand même sur
Écoutez,
le fond.
Écoutez, j'ai lu ses propos, je les ai entendus. Il sentait une amertume qui est regrettable. Donc franchement, elle a pu rencontrer. Je veux dire, ça, c'est de la petite politique. Vous ne pensez pas que tous les sujets que nous venons d'aborder depuis 10 minutes valent plus que ça?
Mais quand on veut se réconcilier avec les élus, c'est mieux de les prévenir quand on débarque.
Les ministres, je suis bien placé pour le savoir, les ministres le font dans la plupart des cas, dans la quasi-totalité des cas. Comme vous savez, il y a des déplacements qui s'improvisent. Il peut y avoir de temps en temps des petits couacs. Je ne crois pas que ça puisse faire la une des journaux.
Merci beaucoup, Gilles Legendre, d'avoir été avec nous. Gilles Legendre, donc, qui préconise des grands chantiers d'envergure sur le long terme pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Bonne journée à vous.
Merci.
La remise à plat ne peut avoir lieu que de manière globale, vient de nous dire Gilles Legendre. Gilles Legendre qui affirme que le pouvoir d'achat va augmenter comme jamais depuis 20 ans en France en 2019. Et puis on a bien compris que en matière d'indemnisation chômage, les cadres étaient sur la sellette. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Dans un instant, nous allons faire un point très complet sur notre météo avec Marina Giraudeau. Merci d'écouter la première radio de France.